Aujourd'hui, l'Église nous convie à suivre les pas du Seigneur. Elle nous introduit, ce passage de l'Évangile nous introduit dans la vie quotidienne de Jésus. Et la vie quotidienne de Jésus, eh bien, est une vie tout à fait extraordinaire. Et c'est ça qui est magique avec la présence de Dieu dans nos vies, et de même celle que les évangélistes nous décrivent. Jésus a vécu une vie comme un homme ordinaire, et en même temps, tout ce qu'il faisait, tout ce qu'il disait, touchait, était extraordinaire. Dans notre vie, il en est de même dans notre vie de foi. Si nous suivons vraiment Jésus, à travers sa providence notamment, eh bien, notre vie ordinaire devient extraordinaire, du sel est envoyé des cieux pour donner goût et appétit à cette existence humaine qui est la nôtre. Il était, le Christ, un prédicateur itinérant. Et là, pour passer d'un lieu à un autre, en général, il n'y avait pas de planification de sa part. Souvent, il le fait au gré des circonstances. Ce sont elles, ces circonstances extérieures, qui déterminent ses décisions, ses départs. Ici, c'est la mort de Jean-Baptiste. Là, le lieu n'est pas précisé, mais Jean nous dit que cet épisode où ils sont obligés de prendre une barque pour aller dans un lieu désert se réfère à Capharnaüm, en fait. Donc on peut penser logiquement que c'était Capharnaüm. Et de même, Jésus va dans des lieux variés, donc des villes comme Capharnaüm, des petites bourgades de rien comme était Nazareth, comme était Cana, etc. Et puis dans des lieux déserts, sans parler évidemment de Jérusalem. Et Jérusalem, c'est le seul endroit où il se rend d'une façon plus programmée, puisqu'il y va en fonction des fêtes religieuses. Donc évidemment, là, il y a des dates. Mais sinon, pour le reste, on pourrait dire que la vie de Jésus ressemble à une poésie. Sans aucune programmation, il est néanmoins poussé par Dieu, à travers la providence, eh bien, à exploiter les circonstances où il se trouve, les lieux où il se trouve. Le voilà donc en solitude, mais il y trouve une foule et il sait s'adapter. L'Esprit Saint, de même, s'adapte à nos existences, et ce, pour chacun d'entre nous. Les lieux déserts, on entend souvent ça. Bien sûr, on entend souvent qu'il se rend dans les villes et villages, mais aussi et beaucoup dans des lieux à l'écart, des lieux déserts. Et pourquoi ? Parce que Jésus aimait beaucoup la création, il aimait beaucoup la nature. Parce que la nature est la création, justement. Elle a été faite par quelqu'un, et ce quelqu'un, c'est Dieu. Et il est toujours bon, justement, pour reprendre du souffle, eh bien, de se promener dans la nature, parce que ça nous met déjà en relation avec Dieu. Il y a ce beau passage du Siracide qui commente ainsi la sagesse. Dieu a répandu la sagesse sur toutes ses œuvres. Alors, c'est pas seulement les hommes, c'est pas seulement les anges. Toutes ses œuvres, c'est aussi, eh bien, ce cosmos dans lequel nous vivons. Et cette terre qui est pareille à un jardin d'Éden, qu'en réalité nous n'avons pas quitté, mais qui a été drôlement métamorphosée depuis les origines. Cette terre toute bleue, eh bien, c'est ce que Jésus nous propose de contempler. Et en vacances, c'est vraiment un bon moment pour le faire. Maintenant, bon, ça c'est Jésus, on suit Jésus et il se trouve que Jésus nous entraîne, malgré lui d'ailleurs, à un grand meeting. Il y a une foule, 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants, précise le texte. Et donc ça fait vraiment du monde. Les meetings. Vous voyez, Jésus, lui, n'a jamais été indifférent envers les foules. Et contrairement à ce que les modernes, et pas seulement les modernes, contrairement aux hommes en général, vous voyez les grands rassemblements que les chanteurs Ils sont capables de mobiliser des foules inimaginables. L'Église peut toujours aller se rhabiller pour faire autant, ou aussi souvent en tout cas. Bon, peut-être que les JMJ, bon, ça marche, mais il n'y a pas grand-chose qui fonctionne à ce niveau-là. Ah, les païens sont très forts pour réunir les hommes. Mais ces chanteurs, ces hommes politiques, enfin tous ceux qui sont le mobile de la réunion, n'ont pas du tout cette tendresse de cœur envers la foule. Ils sont dans une indifférence complète. Les foules sont là parce qu'elles les servent, mais pas, ils ne sont pas là, eux, pour les servir. Jésus, lui, au contraire, quand il voit ces foules qui viennent à lui, il ne se fait pas d'illusions. Elles sont, il les compare à des brebis sans berger. Et vraiment, c'est ce qui fonde sa compassion. C'est ces hommes, ces femmes qui viennent l'écouter avec une grande soif, eh bien, sont des âmes perdues. Pas définitivement perdues, mais des âmes errantes. Parce qu'elles ne connaissent ni la vérité, ni l'amour, au sens fort du terme. Elles en ont entendu l'écho, et dans les paroles de Jésus, elles ont reconnu son incarnation. Alors elles viennent à lui, ces foules. Et Jésus sait pourquoi elles viennent à lui, et c'est pourquoi son cœur peut s'émouvoir envers elles. Le monde, voyez, ne parle jamais, ne produit pas de sens, il ne parle jamais de notre âme. Le monde, c'est pas son langage. L'amour, il s'en fiche. Le sens de la vie lui-même est réduit à servir la société, son fonctionnement, son avancement, que sais-je. C'est tout ce que le monde peut produire comme sens. Et c'est bien insatisfaisant, cela. Si aujourd'hui, quand une société est en crise, comme c'est le cas de la nôtre, eh bien heureusement que le nombre des catéchumènes augmente, parce que c'est dans la nature humaine d'avoir une âme, de ne pas être un végétal, ni un animal, et d'avoir une âme et donc des besoins spirituels. Alors oui, le nombre des catéchumènes augmente, bien sûr pas assez, mais on sent cette quête du sens. On sent ces brebis sans berger qui partent à la recherche du verbe de vie, de la parole définitive. Le Christ peut l'apporter puisqu'il connaît la vérité. Il est la vérité. Je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est le chemin dans le sens de commandement, vérité, dans le sens de cette certitude qu'on ne se trompe pas, qu'on n'est pas trompé, la vie. Parce que notre âme recherche la vie, elle ne veut pas mourir, bien évidemment. Pas plus que notre corps ne veut mourir. Dieu, voyez, le Christ, c'est finalement une parole d'éternité au milieu de nous, c'est le Père qui est au milieu de nous, le Père en personne, finalement, à travers le Fils, c'est pourquoi il l'a envoyé. Le Christ nourrit les foules, ne se contente pas en leur parlant, il les nourrit, évidemment, mais il va même nourrir leur corps pour bien montrer qu'il est l'aliment ultime. Et nous allons communier à l'Eucharistie tout à l'heure, à cette nourriture céleste qui va nourrir notre cœur. Il nourrit les foules au désert. Comment ? Comme font n'importe quel parent envers leurs enfants, avec la même attention, le même zèle, la même tendresse. C'est très beau de voir ça, parce que Jésus est là pour nous montrer le cœur du Père. Et le cœur du Père est plein de cette tendresse et de cette délicatesse à notre égard. Ne doutons pas du Père, c'est le diable qui veut nous faire tenter, qui veut nous faire vaciller et douter de la bonté du Père, de la bonté de Dieu. Donc la création, elle a conservé, la création, eh bien, la trace de Dieu dans sa grandeur inimaginable, dans son harmonie, dans sa beauté, dans son équilibre. La matière qui obéit à Dieu, même si elle est toujours en mouvement, eh bien, produit un équilibre, une harmonie que l'homme doit bien prendre comme exemple. Si nous mettions, si tous les hommes mettaient Dieu dans leur vie, eh bien, la vie en société deviendrait harmonieuse, belle, profonde. Et si vraiment elle ne l'est pas, c'est parce que les hommes ne mettent pas Dieu dans leur vie, et donc c'est le chaos qui s'installe. Ne connaissant pas la vérité, eh bien les hommes font des tas de choses dont ils ne soupçonnent même pas les conséquences mauvaises, et les mauvais calculs s'entassent, etc., etc., et ça conduit à un chaos progressif. Jésus, lui, au contraire, vient nourrir notre âme. Alors la multiplication des pains, toujours cette création, c'est étonnant quand on regarde par exemple la théorie du Big Bang, quand elle nous explique qu'à partir de rien, paf, d'un seul coup, toute la création se met en branle, mais progressivement. Les particules se forment en fonction de l'énergie qui baisse, etc. La lumière apparaît et tout se déploie. Et tout devient planète, étoile, système solaire, galaxie, etc. Et dans un mouvement qui demeure constant, il y a une impulsion au départ que Dieu donne à la matière, mais la matière est programmée. La matière, eh bien, suit un déroulement qui n'est pas chaotique, sinon la vie elle ne pourrait jamais porter la vie. Or, le but de Dieu, c'était de porter la vie. Et d'y placer l'homme et la femme comme il l'a fait. Le Christ, c'est le Créateur. Et il est le Créateur avant même d'être notre Rédempteur. Donc quand on se promène dans la création, c'est pas gratuit. Bien sûr, psychologiquement, on en ressent des effets positifs, etc. Mais prolongeons notre méditation lorsque nous nous promenons jusqu'au domaine spirituel. Et alors, les fruits sont grands. La multiplication des pains, c'est aussi le fait de multiplier. C'est dans le langage biblique, dans le langage de la Genèse, au moment de la création, justement. Ça traduit le processus du vivant. Le vivant procède par multiplication selon l'ordre de Dieu, croissez et multipliez. Et multiplication, c'est juste une description, c'est pas une analyse, mais une description extérieure de la dynamique du vivant. Alors pas seulement au niveau biologique, parce que c'est également valable au niveau spirituel, au niveau de notre conscience. Oui, nous devons croître, nous devons multiplier à travers nos œuvres, les œuvres bonnes que nous posons. Multiplier, c'est-à-dire vivre. Vivre et à l'infini comme Dieu veut que nous vivions. Et l'Eucharistie, ces pains multipliés par Jésus, eh bien ça montre évidemment la souveraineté du Christ sur la matière. Mais ça nous montre aussi qu'il inocule en quelque sorte lorsque nous communions. Ce processus de multiplication dans nos âmes, il nous communique sa vie, il nous communique la vie éternelle.